Instructions sur les précautions qui doivent être observées dans les provinces où il y a des lieux attaqués de la maladie contagieuse et dans les provinces voisines.
La maladie contagieuse, il s'agit de la peste de Marseille qui débute le 20 juin 1720. 2 mois et demi plus tard, toute la Provence est mise en quarantaine. Au total, cette peste, qui va durer jusqu'en 1722, aura fait plus de 120 000 victimes sur les 400 000 habitants que comptait la Provence à cette époque, soit près d'un tiers de la population. Quel est le contenu de cette instruction, de ce décret, dirions-nous, aujourd'hui ?
Dès l'instant où les autorités royales détectent un foyer de contamination, la troupe investit les lieux à une distance de 2 km environ afin de laisser aux habitants une partie de leur terroir dont ils puissent tirer les secours nécessaires à leur subsistance.
Autrement dit, c'était les soins de santé primaires avant l'Organisation mondiale de la santé.
Si le mal se répand dans les maisons écartées au point qu'il ne soit pas possible de les comprendre dans le blocus, il dépendra de la prudence et de la discrétion du commandant d'ordonner que les portes et fenêtres des dites maisons soient murées, ou même de les faire brûler s'il le juge nécessaire. Il sera défendu de sortir des lieux bloqués sous peine de la vie.
En cas d'infraction, l'officier qui commande ne doit pas hésiter à marcher vers le lieu bloqué avec la troupe la plus leste et la baïonnette au fusil pour menacer les habitants de les brûler et de les passer tous au fil de l'épée s'ils s'avisaient de recommencer en prenant soin de ne tirer sur eux que bien à propos et en cas de nécessité.
Si par hasard quelques habitants échappaient à la surveillance des postes, il faut en quelques endroits qu'ils aillent les faire arrêter puis les ramener dans leur terroir et leur faire casser la tête devant leurs compatriotes. Exemple absolument nécessaire pour les contenir.
On doit faire tuer tous les chiens et tous les chats, tant au-dedans qu'en dehors du blocus. À 4 km au moins, attendu les exemples par lesquels on a reconnu que, quoique ces animaux ne prennent pas le mal, ils le communiquent très souvent.
Il est absolument interdit de venir au poste du blocus pour parler à qui que ce soit, ce qui ne doit être permis qu'aux barrières, sans quoi il arrivera de grands inconvénients.
Il est fort important qu'à 25 km à la ronde des endroits attaqués, toutes les villes, villages et bourgs puissent être fermés au besoin avec des fossés et que l'on n'y puisse accéder que par un seul passage où l'on mettra une barrière avec une bonne garde afin de contrôler les passants, leurs hardes ou marchandises et contrôler les billets de santé dont ils doivent être porteurs. Les billets de santé, oui, autrement dit, les passes sanitaires. Mais que doivent-ils contenir ces billets de santé ?
Les billets de santé doivent contenir en détail la quantité et la qualité des meubles, hardes et marchandises dont ceux qui représentent ces billets sont porteurs. Et si on les trouve changés de quelque chose qui n'y soit pas spécifié, il faut le faire brûler sans aucune grâce et faire mettre en prison les porteurs des billets. Les commandants enjoindront aux consuls et autres officiers municipaux de ne délivrer des billets de santé qu'à des personnes dont ils seront bien sûrs. Et ils auront attention à signaler tous ceux qui seront suspects de contrebande. Si quelqu'un de ceux qui auront été consignés vient à s'échapper, ils lui feront casser la tête.
Passons maintenant à la prise en charge sanitaire de l'épidémie de cette peste proprement dite.
Au-dedans des lieux attaqués, le premier soin du commandant des officiers municipaux doit être de faire établir une ou plusieurs infirmeries. Il faut avoir soin de faire porter dans les infirmeries les malades dès leur première marque de contagion. Il faut en outre disposer d'autres maisons destinées à mettre les convalescents à mesure qu'ils sont en état d'y être conduits et imposer une quarantaine à ceux qui ont communiqué avec les malades ou qui vivaient avec eux.
Autrement dit, les cas contacts. Ça, c'est de la médecine préventive. Passons maintenant aux mesures thérapeutiques de ce début du XVIIIe siècle. Elle nous ferait sourire aujourd'hui, mais bon, que dira-t-on de notre pharmacopée dans 200 ans? Suivent maintenant quelques mots sur le personnel de santé.
Il faut un nombre de gens fiables, toujours armés pour faire aux corbeaux leurs devoirs et empêcher toute communication avec les maisons suspectes. Il faudra leur casser la tête aux infirmiers, corbeaux ou particuliers et même aux femmes qui auront volé ou caché des hardes des pestiférés.
Les corbeaux, ce sont les médecins, à cause du masque en forme de bec de corbeau qu'ils portaient. Les masques, eh oui, déjà les masques. Abordons maintenant le rôle de l'administration et demandons-nous quelles sont les aides prévues par l'État, enfin l'État, les autorités.
Il faut avoir dans les infirmeries d'honnêtes gens pour intendants dont la grande attention doit être de faire brûler les hardes de ceux qui sont portés, sauf leurs matelas et draps qui peuvent servir à d'autres pestiférés. La communauté dédommagera ceux dont on aura brûlé les hardes s'ils sont pauvres. Sinon, il faudra y suppléer par des charités et aumônes.
Les rassemblements seront interdits.
Le service divin ne se fera pas dans les églises à cause du danger de la communication. Il se fera dans des places aérées ou dans la campagne. On ne doit souffrir aucune assemblée, de quelque nature qu'elle puisse être, pendant la durée de la contagion et longtemps après sa fin.
Abordons le sujet de l'accès aux commerces de première nécessité qui seront eux aussi réglementés.
Les boutiques contaminées doivent demeurer fermées jusqu'à ce qu'on ait procédé à leur entière désinfection. Mais il faut laisser ouvertes les boutiques de ceux qui vendent les denrées nécessaires à la vie et dont les maisons ne sont point suspectes.
Un peu plus loin, et à l'adresse du personnel soignant,
comme les médecins et chirurgiens se sauvent souvent ou ne veulent point servir les malades, si l'on ne peut les appeler à leur devoir par des sentiments de religion et d'honneur ou par la promesse d'une honnête récompense, il faudra les y contraindre en cas de nécessité, par la crainte d'une mort plus sûre et plus prompte que celle qu'ils veulent éviter.
Un mot maintenant sur la solidarité.
Ceux qui commandent en dehors des lieux attaqués doivent avoir surtout une grande attention à leur procurer tous les secours nécessaires pour leur subsistance. Et si ces lieux manquent d'argent pour les acheter, ils en avertiront le commandant en chef ou l'intendant de la province, lesquels pourront obliger les communautés voisines et qui sont aisées de leur faire des avances dont elles seront remboursées par la suite.
Quelles sont les mesures à prendre en cas de guérison ?
Ceux qui seront guéris de la peste n'auront la liberté de communiquer avec les autres habitants du lieu qu'après avoir fait 2 quarantaines et après qu'on les ait fait passer plus d'une fois par le parfum et qu'on aura brûlé généralement tout ce qu'ils avaient sur le corps.
Nous laissons à chacun le plaisir de goûter ce texte. Il a été remanié par nos soins pour qu'il soit intelligible au XXIe siècle. Sur notre site balado-gazette.fr, vous pourrez prendre connaissance du texte original. Merci infiniment à Isabelle Maillard de m'avoir accompagné dans cette lecture. Merci également au Club de l'Histoire, de l'Anesthésie et de la Réanimation de nous avoir adressé ce document archivé à la Bibliothèque nationale de France. À bientôt.